Mais il est complètement fou, ce mec.
Alors promets-moi de pas bouger. Bon, c'est d'accord.
Complètement à l'ouest, une émission animée par Philippe Boyer, directeur de l'innovation chez Covivio.
Et bonjour à tous, bienvenue pour cette troisième saison, et oui déjà, de Complètement à l'Ouest, l'émission de Radio Immo où l'on parle de tout sauf d'immobilier. En tout cas, je suis ravie de vous retrouver pour une nouvelle année de rencontres autour de la culture, des sciences, des arts, enfin tout ce qui fait finalement notre monde et notre ville. Le lien, il est là. Et pour en parler, je suis comme d'habitude en compagnie de Philippe Boyer. Bonjour Philippe.
Bonjour Johanna.
Vous êtes en forme?
Ah, parfaitement en forme.
L'été a été bénéfique pour cette nouvelle
saison.
Magnifique,
plein de soleil, plein d'énergie, plein de vitamines.
Eh bien magnifique, on va pouvoir attaquer cette nouvelle saison. On va parler un peu philosophie aujourd'hui, Philippe.
Oui, en effet, d'abord très content de vous retrouver pour cette troisième saison au cours de laquelle, vous l'avez dit, Johanna, nous allons tenter de continuer à choisir l'éclectisme, car c'est bien le sens de cette émission. Complètement à l'ouest, comme son nom l'indique, c'est le fait d'aller voir ailleurs, au-delà de notre horizon. C'est la promesse de s'ouvrir la tête en écoutant des invités passionnants et passionnés. Nous allons donc, et pour cette troisième saison, relever ce défi en nous intéressant à tout, vous l'avez dit Johanna, philosophie, nature, politique, art, cuisine, médecine, géographie, histoire, voyage, mode. Ce sera un peu comme à la Samaritaine, on trouvera de tout. Et nous commençons sans plus attendre avec une invitée étonnante que nous allons découvrir dans un instant, mais en attendant, je le clame haut et fort, c'est parti, droit devant, larguons les amarres et cap à l'ouest, complètement à l'ouest.
Complètement à l'ouest, Philippe Boyer.
Bonjour Gabriel Alperne.
Bonjour monsieur.
Nous sommes ravis de vous accueillir dans cette nouvelle émission de Complètement à l'Ouest, un titre d'émission taillé pour vous en tout cas, pour le sujet dont nous allons aujourd'hui parler. Pour nos auditeurs, vous êtes docteur en philosophie et chercheur associé à l'École Normale Supérieure. Vous n'êtes pas que philosophe, puisque vous avez également travaillé au sein de plusieurs cabinets ministériels, tout en vous intéressant au monde des startups. Mais ce qui nous réunit aujourd'hui, c'est la sortie de votre livre au titre un peu énigmatique, Tous Centaures, avec pour sous-titre Éloge de l'hybridation, et c'est paru aux éditions Le Pommier. Alors on présage qu'il y sera question de monstres mythiques de la Grèce antique, ces centaures, et aussi de propos philosophiques contemporains sur notre époque qui, dites-vous, se caractérise par une hybridation. Mais avant d'aller au cœur de votre thèse selon laquelle nous aurions basculé dans un monde hybride, multiple, nous avons coutume pour d'entamer cette émission par un court extrait sonore, et ici vous allez l'entendre, il va aussi s'agir de Grèce antique, avec sa plus digne représentante en la personne de l'académicienne Jacqueline de Romilly, à qui on demandait, c'était en 1977, pourquoi la Grèce ?
La familiarité avec la Grèce ancienne peut encore aujourd'hui et surtout aujourd'hui être d'une grande utilité dans notre monde. D'abord, nous avons besoin de recul. La vie actuelle est complexe, rapide, l'information se précipite sur nous d'heure en heure, on ne voit plus l'ensemble, en plus nos mots sont usés à force de discuter, tout le monde se plaint de la difficulté de la communication. Eh bien les Grecs vivaient dans des petites cités à échelle humaine. Ils adoraient comprendre, discuter d'idées abstraites, ils inventaient les mots pour ces idées. Et en les revoyant dans cette clarté première, nous pouvons peut-être mettre un peu d'idées de clarté dans les nôtres aussi. Ce ne sont pas les mêmes, naturellement.
On l'a entendu pour cette fantastique helléniste disparue en 2010, le détour par la Grèce antique demeure plus que jamais utile, indispensable. Elle parle de besoin de recul pour comprendre notre époque dans toute sa complexité. Gabriel Alperne, dans votre livre « Tous centaures, éloge de l'hybridation », vous aussi, vous consacrez de nombreuses pages à cette Grèce antique, celle qui a inventé ce centaure et cette idée d'hybridation qui est au centre de votre ouvrage. Alors, deux questions en une pour démarrer. Que représentait pour les Grecs ce personnage mythique, mi-homme, mi-cheval, ce fameux centaure? Et puis, et surtout, en quoi notre époque se caractérise-t-elle par cette dimension centaure, pour ne pas dire hybride, que vous décrivez?
Il y a une question, s'agissant des mythes grecs, qui m'a toujours intéressée, c'est le philosophe roumain Mircea Eliade qui dit... La question s'agissant des mythes, c'est pas tant de savoir s'ils étaient vrais ou faux, s'ils expriment une réalité qui existait vraiment, mais c'est de savoir, en fait, un mythe répond toujours à une question, à une angoisse. Et moi, ce qui m'intéressait, c'était de savoir à quelle question et à quelle angoisse le mythe du centaure répondait, en tout cas pour les Grecs. M'intéressait de savoir quelle idée était incarnée à travers ce personnage du centaure. Ce qui est intéressant, c'est que quand on regarde quand on lit les textes qui nous viennent de l'Antiquité, puis quand on regarde également que ce soit la peinture, la sculpture, la majeure partie en fait des représentations de ce personnage du centaure, donc qui est être humain au-dessus de la ceinture et cheval en dessous de la ceinture, c'est que c'est un personnage monstrueux, agressif. Il a un arc avec des flèches, enfin, c'est comme si c'était quelque chose, quelqu'un qui nous voulait du mal. Donc moi, ça m'intéressait de me dire, mais finalement, pourquoi est-ce que les Grecs ont incarné cette figure du centaure, qui est une figure hybride, puisqu'elle est à la fois homme et cheval, à travers un personnage aussi monstrueux? Alors, il y a plusieurs éléments. D'abord, une chose qui est intéressante, c'est que c'est sûr que si vous croisez un être humain dans la forêt, vous savez à peu près comment il peut réagir. Si vous croisez un cheval, vous savez à peu près comment il va réagir. En revanche, un centaure, par définition, vous ne savez pas, parce que c'est une figure inédite, une sorte de tierce figure, et donc c'est l'imprévisibilité. Donc déjà, un premier élément de réponse, pourquoi est-ce que les Grecs ont incarné l'hybride dans une figure aussi agressive, monstrueuse? Déjà, parce que c'est l'imprévisible. Donc ça fait peur. Au-delà de ça, le centaure soulève plein de questions. Déjà, il a une origine suspecte. Il n'est pas vraiment homme, il n'est pas vraiment cheval. Il y a un problème aussi un peu d'identité. On ne sait pas dans quelle case le ranger. Et puis enfin, l'hybride, et en tout cas le centaure, c'est le fruit d'un mariage improbable. Pas l'idée de voir un homme et un cheval, ça donne un centaure. Et tous ces éléments-là, pour moi, c'est ça la définition de l'hybride. Le mélanger, le contradictoire, l'hétéroclite, le mariage improbable, le truc qui ne rentre pas dans les cases... Alors que nous, justement, on adore ranger les choses dans les cases. Donc voilà, un premier malaise que les Grecs ressentaient et qu'ils ont donc incarné dans le mythe du centaure, et un malaise que nous ressentons également aujourd'hui. Et donc je réponds à la deuxième partie de votre question, parce que justement, il y a de moins en moins de choses qui rentrent dans nos cases. L'exemple le plus trivial, les objets, notre téléphone portable. Qui n'est plus seulement un téléphone, parce que c'est aussi un scanner, une radio, une télévision. C'est un espace de travail, donc sérieux, et puis c'est également un espace ludique. Donc là, il y a une contradiction, mais ça marche, voilà. Donc d'ailleurs, à tel point, on se demande pourquoi est-ce qu'on continue à appeler ça un téléphone. Si on prend les villes, du fait de la prise de conscience écologique, il y a de plus en plus de projets de végétalisation, des fermes urbaines, des potagers, des élevages de chèvres sur les toits des bâtiments à New York, par exemple. Et ça, c'est intéressant, parce que finalement, on se dit, mais... Un jour, la frontière entre ville et campagne va être de plus en plus ténue, si finalement, y a des arbres partout en ville. Enfin, voilà, où sera... Il y a une hybridation. Je pourrais démultiplier les exemples comme ça à l'infini, même sur les manières d'habiter qui s'hybrident. Si on prend la pratique du co-living, qui est une sorte d'hybride entre l'auberge de jeunesse, la coloc, l'hôtel... il y a toutes ces choses-là en un. Et on retrouve ça dans, par exemple, l'hybridation des matériaux, l'hybridation des manières de travailler, l'hybridation dans l'éducation. Encore une fois, je pourrais démultiplier les exemples à l'infini. Donc la question de l'hybridation, en tout cas, c'est toutes ces angoisses-là donc, que j'ai décrites plus tôt, et qui se retrouvent effectivement à notre époque.
Si on veut rebondir sur l'actualité, est-ce que vous diriez que la crise sanitaire que l'on a traversée, que l'on traverse toujours, a accéléré cette hybridation?
Oui, alors ça c'est une question qui est très intéressante. Alors, premièrement, le phénomène d'hybridation accélérée auquel on assiste a commencé bien avant la crise sanitaire, ça c'est indéniable.
Il a commencé quand? Vous savez le dater?
Non, parce qu'il n'y a pas un événement qui fait que... Voilà. En tout cas, je pense qu'au XXe siècle, et surtout à la fin du XXe et au début du XXIe, il y a aussi une prise de conscience du fait que il faut qu'on arrête avec cette hyper-rationalité, ce truc qu'on met les gens dans les cases, cette consanguinité, cet entre-soi, puis ce culte malsain de la pureté, on veut que tout soit homogène, derrière il y a des choses, dans le culte de la pureté, il y a des choses nauséabondes qui en ressortent. Donc c'est toutes ces choses-là où on s'est dit, je pense qu'il y a une prise de conscience collective avec toutes les atrocités du XXe siècle, hein, au travail, et puis évidemment dans l'histoire, on s'est dit on ne peut plus continuer comme ça. Donc il y a en réaction à tout ça, je pense que l'on est enfin prêt à accepter l'hybridation, le fait que y a des centaures, la réalité est hybride, les choses n'entrent plus dans nos cases, et il faut respecter le monde tel qu'il est, c'est-à-dire hybride. Donc encore une fois, non, on ne peut pas le dater, en tout cas on sent que depuis un certain nombre d'années, il y a ce phénomène d'hybridation accélérée. C'est d'ailleurs la raison pour laquelle j'ai consacré ma thèse en philosophie sur le sujet, dont le livre et la traduction grand public, justement parce qu'il y avait tous ces signaux faibles qui me montraient que ça arrivait. Alors, pour répondre à votre question, la crise sanitaire a effectivement accéléré. Je dirais qu'elle a accéléré parce que pendant la crise sanitaire, on s'est rendu compte que l'hybridation était une extraordinaire stratégie de survie. Et je vais vous donner deux exemples. Le premier, l'idée grandiose d'utiliser des masques de plongée dans un hôpital où il y avait une pénurie de masques. Ça, c'est un croisement. C'est l'univers de la plage, du ludique, du loisir qu'on va apporter dans un univers sanitaire, l'hôpital, voilà. Et ça, c'est une hybridation des mondes, des secteurs, voilà. Un même objet qui peut avoir une hybridité d'usage. Donc ça, c'est intéressant. Donc, stratégie de survie. Deuxièmement, j'ai trouvé que c'était très intéressant, au moment de la crise sanitaire où donc les musées étaient fermés, il y a eu un partenariat entre la gare de Lyon et le Petit Palais, de manière à ce que les représentations des œuvres du Petit Palais puissent être exposées dans les couloirs de la gare de Lyon. Et ça, c'est extraordinaire, parce qu'on entrevoit l'hybridation entre le musée et la gare, entre la culture et la mobilité, et ça ouvre un milliard de perspectives. C'est-à-dire que le musée, c'est plus seulement un musée, ça peut être un tiers-lieu. La gare aussi, ça peut être un tiers-lieu. Demain, tous les lieux seront des tiers-lieux. C'est ma thèse. Ou encore une fois, on se rend compte que un magasin n'est plus un magasin, il peut être autre chose. Un musée n'est plus un musée, il peut être autre chose, etc., etc. Les choses sortent des cases, il faut ouvrir les cases. Voilà.
Alors, à l'attention des auditeurs, et vous l'aurez compris, c'est un essai vraiment à lire absolument, car il décrypte le monde tel qu'il est en train de changer sous nos yeux, avec cette hybridation qui envahit tout. Vous les citiez, les villes, les bureaux, les voitures aussi, tout est soudainement devenu hybride. Pourquoi dites-vous que, quelque part dans votre livre, s'interroger de nouveau sur notre rapport à la réalité devient crucial? Le centaure ne représente rien d'autre que cette part de réalité dont nous nous méfions.
Alors, je dirais que donc effectivement, les Grecs se méfiaient des centaures, et quand on analyse toute l'histoire des idées en Occident, toute cette histoire des idées, on voit qu'il y a eu une forme de refoulement pour ne pas penser le centaure, parce que encore une fois, voilà, ça sort des cases, ça met mal à l'aise, ça, voilà, cette méfiance là. Donc le centaure, l'hybridité du monde, et le grand impensé, le grand refoulé, un peu dans notre inconscient, on a fait comme si ça n'existait pas. Sauf que le problème, c'est que la réalité est hybride. Hein. Donc, je dirais que... Alors, on parle de crise économique, crise institutionnelle, crise territoriale. Moi, je pense que la crise, la véritable crise, c'est celle de notre rapport à la réalité. Je vais vous donner... Enfin, en tout cas, présenter une métaphore que j'exprime dans mon livre. Quand on rentre de... Parce que c'est vraiment ce qui se passe dans notre cerveau. Après avoir fait des courses, on rentre chez soi avec son caddie. On a plein de trucs dans son caddie. Et puis bon, on va ranger les choses dans le réfrigérateur, tiroir, placard... Bon. Chaque chose a une place. Et alors le problème, c'est quand il y a une chose justement qui n'a pas sa place. Et donc là, notre cerveau a trois manières de réagir. Soit, on découpe le truc pour que ça puisse rentrer là où on voudrait que ça rentre. Soit, on le laisse pourrir dans le caddie en se disant, ça fait rien, je vais pas le ranger.
Je me suis trompé.
Voilà. Troisième option, on arrête d'en acheter. Et en fait, on ne se rend pas compte, mais on fait ça toute la journée. On fait ça avec son métier, avec ses équipes, ses collègues, avec une nouvelle situation professionnelle que l'on connaît, avec le virus aussi. Alors on dit, le virus, la Covid-19, c'est comme la peste, c'est comme la grippe espagnole. On range ça dans les fameux tiroirs. Ou alors, d'ailleurs, on fait comme si ça n'existait pas. Et encore une fois, on ne peut plus continuer comme ça. Et donc, c'est pour ça que à force de faire ça, c'est pour ça que j'apporte une critique de cette hyper-rationalité qui a transformé notre cerveau en usine de production massive de cases, où on range tout dans des cases, et à un moment donné, ça explose. Et je pense que tout le sujet, notre rapport à la nature, quand je dis qu'il y a une crise de notre rapport à la réalité, c'est le monde, la nature, et puis c'est l'autre, l'être humain en face de moi, que j'ai envie de ranger dans une case, que il ressemble un peu à un tel, donc je vais réagir comme ça. Chaque être humain est unique, donc il va falloir réagir à chaque fois de manière nouvelle.
Est-ce que tout ce qui nous entoure peut devenir hybride? Vous citiez les gares qui deviennent des musées, les musées qui deviennent des gares, bien sûr les bureaux, on en parlera encore peut-être, qui en effet qui s'hybrident, puisque ce sont des tiers-lieux de plus en plus. Tous les lieux, tout devient hybride. Est-ce que tout peut devenir hybride? Ou est-ce que finalement cette gymnastique intellectuelle que vous citez, la capacité de faire des ponts, de faire des liens, est-ce ce trait de caractère qui rend les choses hybrides?
Oui, alors on pourrait me dire que je suis extrêmement idéaliste. Moi, je pense que oui, cette hybridation, effectivement, peut tout toucher. Mais en fait, derrière votre question, je ne voudrais pas que les auditeurs se disent « Ah, mais alors c'est quelque chose de terrible, l'hybridation, voilà. » Parce que, certes, les Grecs s'en méfiaient, et certes, ça nous déstabilise un peu, parce qu'on doit tout réinventer. On doit réinventer les téléphones, les villes, les bâtiments, les matériaux, les manières de travailler. Oui, on doit tout réinventer. Mais c'est intéressant de tout réinventer, ça rend plus intelligent, et puis on arrête d'être en pilotage automatique. Mais deuxièmement, en fait, l'hybridation, c'est quelque chose d'absolument extraordinaire pour mettre fin à ces silos, à cette consanguinité, à cet entre-soi, au fait que, ah bah non, si t'as fait une école de commerce, enfin, si t'as pas fait d'école de commerce, bah, tu peux pas faire du commercial. Bah si, on peut hybrider les métiers, on peut hybrider les formations, on peut hybrider les parcours. Voilà. Et puis surtout, on peut arrêter de mettre les gens dans des cases. C'est-à-dire, je trouve que l'hybridation, pour moi, c'est pas seulement une approche stratégique, une stratégie d'innovation, par exemple, pour les entreprises, mais c'est aussi un projet de société, c'est une vision du monde. Et c'est une vision du monde qui peut mettre fin aux fractures. Un exemple, les maisons de retraite. Bon, ben voilà, on met tous les vieux ensemble.
Vous en parlez longuement dans votre
ouvrage. Oui, parce qu'on voit bien que là, avec la crise sanitaire, il y a un coup de projecteur qui a été mis sur les maisons de retraite. On ne peut plus continuer à les penser comme ça. Et même dans le discours politique, on ne peut plus continuer, en termes aussi de politique publique, on ne peut plus continuer à mettre les gens dans des cases en disant, bah alors, il y a les mesures ou les politiques publiques pour les jeunes, il y a les artistes, les industriels, et puis les personnes âgées. Non. On ne peut pas continuer comme ça. Donc les maisons de retraite, ça ne peut pas être des mouroirs où on met toutes les personnes âgées ensemble. Bah, il faut transformer les maisons de retraite en tiers-lieux, il faut les ouvrir sur la ville. Si vous n'avez pas votre grand-mère dans la maison de retraite du quartier, vous n'avez aucune raison d'y aller, a priori. Mais justement, il faut casser cette idée-là. Une maison de retraite, ça peut être une salle de sport, ça peut être un restaurant, ça peut être un milliard d'autres choses, hein, qui va faire que bah, ça va être ouvert. Alors évidemment, on va dire, oui, mais avec la crise sanitaire, le Covid, voilà. Mais c'est aujourd'hui qu'on construit les maisons de retraite de demain. Donc c'est aujourd'hui qu'il faut se poser les questions.
À propos des maisons de retraite, vous citez dans votre ouvrage le mot espagnol pour dire retraite.
Jubilación, oui, c'est génial. Effectivement, enfin, nous, retraite...
Jubilation, c'est ça?
C'est ça. Nous, retraite, en français, c'est retirer, quoi. On retire ces populations du monde. Même, d'ailleurs, quand on prend sa retraite, on se retire du monde.
Alors qu'en espagnol, c'est la jubilation.
C'est ça. C'est... Ben, voilà, la langue dit beaucoup de notre représentation des choses.
Allez, on va marquer une courte pause musicale avec un titre qui parle de mélange, de contraste, d'hybridation en somme. Il s'agit d'un morceau que vous avez choisi, hein, Gabriel,
oui,
qui s'intitule « De Benissaf à Salonique ». On va l'écouter juste avant. Un petit mot sur ce choix et sur le lien avec notre thème du jour.
Oui. Cette chanson était particulièrement connue dans le film Le Nom des gens, qui est un film absolument extraordinaire et que je conseille à tous nos auditeurs, parce qu'en fait, c'est vraiment l'hybridation, c'est-à-dire que ces deux mondes qui a priori n'auraient jamais dû se rencontrer, alors je ne vais pas rentrer dans le détail pour garder le suspense pour ceux qui n'auraient pas vu, en tout cas ce sont deux mondes de personnes qui n'auraient jamais dû se rencontrer, c'est le mariage improbable, et c'est le mariage improbable qui permet justement de créer un tiers monde, en tout cas un tiers amour, une espèce de, voilà, c'est l'hybridation.
On l'écoute,
De Benissaf à Salonique.
De Salonique à Benissaf, combien de routes ont-ils croisé, nos grands-parents, leurs fiancés, combien de doutes, de sacrifiés pour qu'un jour notre amour. Combien de noms de
on ne veut pas de vous,
ma mère,
mon père,
par terre,
caché,
d'avenir rêvé, liberté sacrée, de rendez-vous dans les soirs d'été,
pour qu'un jour notre amour.
Impatient.
l'Ouest, Philippe Boyer.
De Benissaf à Salonique, le choix musical de notre invité du jour dans Complètement à l'Ouest, c'est Gabriel Alperne que nous sommes ravis d'accueillir sur ce plateau. Gabriel, vous nous parlez d'hybridation. On a dit qu'il y avait une accélération ces dernières décennies presque de cette tendance. Pourtant, il y a encore beaucoup à faire. Vous prenez comme exemple un vrai exemple qui, à vos yeux, incarne le mieux ce croisement des connaissances qui est aujourd'hui indispensable. Vous citez dans votre livre l'exemple du centre Techno-Technion en Israël et vous dites que ce centre d'innovation est un centaure. Est-ce que vous pouvez développer cet exemple?
Oui, alors effectivement cet exemple, il y a également la Silicon Valley. En tout cas derrière c'est toujours cette même idée de faire travailler ensemble des mondes. Alors nous les franco-français on aime bien mettre les choses dans des cases, ça, on a encore un peu de mal. Je dirais effectivement, voilà, le secteur public, le secteur privé, des grands groupes, des start-up. Il y a aussi effectivement des Fab Labs, il y a une idée effectivement plutôt d'artisanat, il y a les chercheurs, enfin voilà, il y a tous ces gens-là qui sont dans leur monde, dans leur imaginaire, mais là pour le coup ça marche, il y a une véritable hybridation et en termes de créativité c'est extraordinaire parce que encore une fois pour moi l'hybridation c'est le meilleur moteur de la créativité et de l'innovation. On a vu que effectivement de ce centaure sont sorties des innovations dingues, que ce soit des sujets de réflexion sur l'irrigation des plantes ou alors des traitements pour la maladie d'Alzheimer. Donc on voit que c'est vraiment le mariage improbable et le fait de faire travailler ensemble des mondes radicalement différents, voire contradictoires, qui font que de là peut sortir le meilleur. C'est pas encore totalement gagné en France, ce sujet d'interdisciplinarité, de voilà, public, privé, petite start-up, grand groupe, les chercheurs, la puissance publique, enfin voilà, on voit bien que c'est pas évident.
Vous avez fréquenté plusieurs cabinets ministériels, est-ce que cette hybridation est prise en compte dans l'action publique?
Alors, il y a deux choses pour répondre à cette question. Oui, moi, effectivement, dans tout ce que j'ai pu voir en cabinet, notamment, j'ai assisté à des réunions où il y avait autour de la table, il y avait des chercheurs, puis il y avait le politique, et puis il y avait l'administratif. Alors, toute ressemblance avec une situation actuelle.
On ne dira rien.
C'est ça. Mais en tout cas, voilà, c'est cette difficulté à travailler ensemble entre voilà, le scientifique, l'administratif, le politique. En fait, c'était terrible parce que quand on sortait des réunions, on se disait... On s'est réunis, mais on ne s'est pas rencontrés. Je pense que ça nous est tous arrivé de participer à des réunions. Des réunions, on en a toute la journée. Et en fait, on sort de là, on a l'impression qu'on n'a rencontré personne. Parce que chacun était dans son jargon, dans sa temporalité, dans son imaginaire, dans ses préjugés d'ailleurs, les uns vis-à-vis des autres. Personne n'a fait pas de côté. Effectivement, c'est difficile. C'est pour ça que moi j'insiste sur cette figure du centaure, qui est aussi un être humain, soit par exemple qui a eu plusieurs parcours professionnels ou alors plusieurs formations, et qui est effectivement à la fois chercheur et puis en même temps connaît l'administration ou à la fois politique et en même temps voilà. Parce que justement, ces petits trésors, ces centaures, ce sont des personnes qui vont être des chevilles ouvrières, des traducteurs, des métisseurs au sein de ces réunions et qui vont permettre justement de, voilà, encore une fois, de traduire d'un monde à un autre et faire en sorte que ces mondes aussi différents puissent changer. Donc je l'ai vu au sujet, effectivement, oui, des réunions. Je le vois également, oui, par rapport au sujet des politiques publiques. Alors on peut dire que c'est très anecdotique, mais quand on regarde les programmes, toutes les élections nationales, locales, des candidats, j'en ai parlé tout à l'heure, il y a la mesure pour les jeunes, la mesure pour les personnes âgées, la mesure pour les artistes, la mesure pour les commerçants, enfin, comme si tous ces gens-là étaient des mondes différents à part. Et ce qui est terrible, c'est que, sans s'en rendre compte, en fait, c'est une sorte de marketing politique, le corps citoyen est divisé en morceaux. Et du coup, ce qui est terrible, c'est que, sans le vouloir, sans le savoir, ces politiques publiques, du coup, créent des silos, créent des fractures au sein de notre société, parce que si on pense la banlieue sans le cœur de ville, si on pense les commerçants sans les artistes, si on pense les artisans sans les industriels, forcément, chacun est dans un silo. Donc, il y a un vrai sujet en termes de communication, aussi, d'abord. Voilà.
Parce que c'est le moment.
Oui, effectivement. Encore une fois, la communication politique est intéressante. Aujourd'hui, elle est structurée autour du paradigme où, en gros, il y a la séquence, alors il y a le déplacement, l'annonce, voilà, la politique publique. Bon. Donc il y a le truc, le déplacement pour les jeunes à l'université. Il y a le truc pour les personnes âgées dans les maisons de retraite. Et donc, chaque chose est voilà, en silo. Moi, ce que je trouve intéressant, c'est que quand on relit le discours à la jeunesse de Jean Jaurès, qui a été écrit il y a énormément de temps, ce qui est génial, c'est que quand on lit ce discours, enfin, il s'adresse aussi aux personnes âgées. Et ce que je trouve triste aujourd'hui, c'est quand on regarde les différents discours de tous les hommes politiques, c'est pas de sujet de gauche-droite, quoi que ce soit, enfin, tout le monde est à la même enseigne. En fait, on se dit, mais en fait, il parle qu'à une petite portion de l'électorat. Voilà, alors, un truc pour les universités, parce que c'est le sujet du jour. Demain, ce sera un truc plutôt, police, voilà. Puis après-demain, ce sera les magistrats, voilà. Puis à chaque fois, c'est une catégorie professionnelle ou une génération. Mais finalement, où est le vivre ensemble, quoi? Où est toute la société dans son ensemble?
à bon entendeur. Votre livre fait des ponts évidents, puis vous en parlez avec passion, avec l'innovation, et finalement être centaure, on a bien compris que c'était savoir créer des ponts entre des disciplines, c'est faire venir des profils autres dans les organisations. Et en vous lisant, je me suis dit que finalement que les DRH ont une sacrée responsabilité pour dénicher et attirer ces centaures.
Oui, tout à fait. Ils ont une responsabilité immense. Alors, et puis derrière le DRH, c'est aussi le directeur général ou le président, parce que il y a aussi une stratégie qui est mise en œuvre, donc je pense que pour le coup le DRH ne peut pas tout, et donc c'est aussi une prise de conscience de la part du dirigeant en tant que tel. Il y a effectivement ce que j'appelle une pulsion d'homogénéité. Alors on a tous ça en nous, effectivement c'est cette pulsion qui fait qu'on s'abonne sur les réseaux sociaux aux comptes qui correspondent à nos idées, ou on va fréquenter que des gens qui nous ressemblent.
Nous sommes dans une bulle.
Oui, mais ce sont pas les algorithmes. Il y a un sujet d'algorithme, mais en fait c'est l'être humain qui décide lui de cette pulsion d'homogénéité que chacun d'entre nous possède. Mais la chose, c'est que c'est vrai que très souvent, dans les recrutements, on homogénéise. On prend quelqu'un qui a fait la même école, ou qui a le même parcours, ou qui a la même spécialité que le secteur de l'entreprise. Moi, je ne critique pas l'expertise, mais je critique l'hyper spécialisation. Tout le monde dit « Ah, mais c'est génial, les moutons à cinq pattes !» Et on en recrute plein. Ouais, sauf qu'en fait, quand on recrute les moutons à cinq pattes, une fois qu'ils entrent dans l'entreprise, on leur coupe leur cinquième patte. Et donc ça, pour le coup, c'est un véritable sujet pour les managers, pour les DRH, qui doivent faire en sorte d'aider le mouton en question à cultiver sa cinquième patte, parce que c'est justement son trésor. Là, je dirais que donc il y a un sujet effectivement de recrutement. Je pense que heureusement les écoles, les universités sont de plus en plus conscientes de ça, et donc elles proposent des doubles diplômes, et puis de plus en plus de jeunes se disent j'ai pas envie de faire que du droit, mais je vais faire du droit, et puis de l'anthropologie, de la philo, mais je vais aussi faire de l'économie, etc., etc.
Ce qu'on voit beaucoup dans les pays anglo-saxons d'ailleurs.
Exactement. Donc c'est pour ça que c'est effectivement très très français. Donc là, il y a ce sujet de comment est-ce qu'on recrute des centaures, et puis une fois qu'ils entrent au sein de l'entreprise, comment est-ce qu'on fait justement pour ne pas les brimer, mais les aider justement avec toutes ces compétences disparates, hétéroclites qu'ils ont, à les valoriser. Puis il y a aussi la formation professionnelle. Parce qu'effectivement, on se forme presque tout le temps dans le chantier, dans le secteur de son métier ou du secteur de l'entreprise. Moi, je pense que si les DRH se formaient au marketing, si les juristes se formaient au design, si les financiers se formaient aux ressources humaines, peut-être que justement, dans les réunions, il ne s'agit pas d'en faire une expertise, mais il s'agit de faire en sorte d'être à même de pouvoir parler avec l'autre. Et donc, si je suis DRH et que je... Par exemple, plutôt, si je suis un juriste et que je parle avec le directeur commercial, souvent le juridique et puis le commercial, ou alors le juridique et l'innovation ont du mal à se parler, si les uns et les autres on se sont un peu formés et ont appris à parler la langue de l'autre...
À s'écouter aussi.
Voilà. Là, pour le coup, ils pourront se comprendre. Donc, la formation professionnelle, le recrutement, voilà. Et encore une fois, valoriser ces centaures, parce que dans l'entreprise, ce sont de véritables trésors. Quand il y a un secteur entier qui est mis à mal, par exemple pendant la crise du Covid, et qu'il s'agit de réfléchir à la manière dont l'entreprise pourrait peut-être proposer sa brique technologique ou son produit ou son service dans un autre secteur, si on a dans son entreprise que des gens qui sont hyper spécialisés et qui ne connaissent que ce secteur-là, l'entreprise ne va jamais se dire « Ah ça pourrait être pas mal d'hybrider les secteurs ou d'aller voir... » Voilà. Donc c'est pour ça qu'il faut effectivement, des gens qui savent s'intéresser à d'autres secteurs, ou alors qui ont été formés dans d'autres secteurs et qui vont apporter leur pierre à l'édifice.
Puisqu'on parle d'entreprise, vous dites que ce qui fait la force d'une entreprise n'est pas le nombre de données qu'elle a recueillies, mais sa capacité à faire les ponts entre toutes. Finalement, le trésor n'est pas la big data, mais la link data. Donc cette capacité, finalement, c'est pas mal à faire cohabiter et à relier toutes ces données. Comment est-ce qu'on apprivoise des centaures lorsqu'on en trouve?
Alors, je dirais que La meilleure manière d'aider un centaure, justement, en fait, c'est de faire en sorte qu'il n'ait pas à compartimenter les choses. C'est-à-dire que si, effectivement, en tant que centaure, j'ai deux formations, ou, voilà, que au sein de l'entreprise, je puisse exploiter toutes ces compétences que j'ai et que je ne sois pas obligée de les compartimenter ou alors d'en exclure certaines. Il faut les aider à hybrider leurs compétences. Je vais vous donner un exemple personnel. Moi, j'ai fait les études de philosophie. Voilà, je suis docteur en philosophie. Et puis, il se trouve que dans une vie antérieure, j'avais un poste qui était très commercial. Je m'occupais de prospection commerciale, le biz dev, comme on dit. Et alors, c'est rigolo parce que les gens me disaient « Mais alors, t'as complètement retourné ta veste. Enfin, voilà, c'est terrible, t'étais philosophe, puis là maintenant, tu te retrouves à faire du commerce. » Enfin, voilà. Et en fait, ce que j'ai trouvé extraordinaire dans cette expérience, c'est que je me suis rendu compte que je n'avais jamais fait autant de philosophie appliquée que quand j'étais dans cette mission de prospection commerciale. Parce que les compétences que j'ai dû apprendre à développer en philosophie, c'est les compétences. Bon, en gros, on a un texte d'un philosophe qui est super compliqué, voilà, avec un jargon. Voilà. Et puis, il faut apprendre à rentrer le plus vite possible dans la complexité du texte, à comprendre les différents concepts qui sont à l'œuvre, à aussi saisir les non-dits et puis à faire des ponts avec plein de choses. Quand on est face à un prospect, c'est exactement la même chose. Il faut entrer le plus vite possible dans la complexité de son métier, dans la complexité de ses contraintes, saisir aussi son jargon le plus vite possible et puis essayer de l'aider à faire ses perspectives et faire des liens avec d'autres textes, d'autres choses, d'autres secteurs, d'autres... Bref, voilà. Donc, pour le coup, moi, c'était une expérience qui m'a montré que, là, pour le coup, c'était un poste dans lequel je n'avais pas l'impression, de compartimenter les choses, mais j'ai pu hybrider ces différentes compétences, des compétences commerciales et des compétences philosophiques. J'ai pu les hybrider et voir que ça peut marcher dans ce cas-là. Donc, ça, c'est un vrai sujet, oui, effectivement, pour les DRH, pour les managers. J'insiste beaucoup sur les managers qui... une chose intéressante, parce qu'on peut dire... ça ne doit pas être facile de manager des centaures. Alors oui, c'est vrai que je l'ai dit au début, le centaure est imprévisible par excellence. C'est sûr que si vous recrutez quelqu'un qui n'a pas fait la même école que vous, ou qui s'est formé dans un autre secteur, ou dans d'autres compétences, un autre métier, c'est sûr que vous ne savez pas comment il fonctionne, par définition. Sauf que le problème du management, c'est le sociologue Yehuda Shenhav qui a une phrase dingue, il dit « On a inventé le management en gros pour terrasser le dragon de l'incertitude ». Et en fait, le truc, c'est que le management, effectivement, actuellement, c'est ça. C'est terrasser le dragon de l'incertitude et empêcher toute imprévisibilité. Le problème, c'est que si au sein d'une équipe, vous tuez toute imprévisibilité interne, alors dans ce cas-là, vous êtes incapable d'y faire face quand ça arrive de l'extérieur, genre en forme de Covid-19. Voilà. Donc, si vous voulez apprendre justement à apprivoiser l'imprévisibilité extérieure et à faire face au monde, voilà, aux nouveaux concurrents qui débarquent, aux innovations de rupture qui vont percuter votre modèle économique, pour le coup, il faut que vous soyez à même d'y faire face en interne. Donc, encore une fois, en recrutant des centaures et en apprenant à laisser un peu plus de place à l'imprévisibilité.
Courant juillet dernier, la Fondation Jean Jaurès, et ça sera notre dernière question, Johanna. Hein. Malheureusement, le temps tourne et c'est absolument passionnant. Donc, la Fondation Jean Jaurès, je le disais, a publié une note intitulée La philosophe et le chef, que vous avez co-signé avec le chef étoilier Guillaume Gomez.
Oui.
Pourquoi avoir hybridé le domaine qui est le vôtre, la philosophie, avec la cuisine? Est-ce que la cuisine et la philosophie ont-elles des points en commun? Et puis, est-ce qu'il n'y aurait pas, de votre part, cette exagération de tout vouloir abusivement hybrider? Je vous provoque volontairement.
Oui, alors effectivement, je suis fidèle à moi-même.
Vous êtes une centaure, on a bien compris.
Voilà. C'est que je trouvais que c'était en tout cas intéressant ce rapprochement entre la cuisine et la philosophie, entre un chef et un philosophe. Parce que oui, pour le coup, c'est le mariage improbable. Donc on n'a pas forcément l'idée de faire un rapprochement. Sauf qu'en fait, il y a un rapprochement. Le cuisinier, il hybride des ingrédients. Le philosophe, il hybride des idées, des concepts. Et finalement, Guillaume Gomez dit... on a beau avoir la même recette, s'il y a 10 chefs, à la fin, on aura 10 plats différents. Et donc, il y a ce côté d'imprévisibilité, du coup, et qu'on retrouve effectivement en philosophie, et puis notamment avec l'hybridation. J'ai trouvé intéressant parce que dans cette interview, Guillaume Gomez explique la recette de la mayonnaise. On voit qu'effectivement, pour que la mayonnaise prenne, il faut une espèce d'aliment qui soit un métisseur, voilà. Et bon, en l'occurrence pour la mayonnaise, c'est le jaune d'œuf. Et j'ai trouvé que voilà, le jaune d'œuf, c'est un peu le rôle que joue un centaure dans une réunion ou alors dans une gouvernance, dans une équipe. On a besoin de ça. Alors après, quand tu as répondu à votre question, est-ce que tout s'hybride, est-ce qu'il faut abusivement tout hybrider, ouais, je dirais que c'est une phrase d'ailleurs d'un grand philosophe qui m'inspire beaucoup, Elias Canetti, grand philosophe du XXe siècle. où il dit je veillerai toujours à ce que mon système ne reste jamais fermé. Et moi, effectivement, je veux dire, à travers cette question, cette dynamique de l'hybridation, je ne suis pas du tout quelqu'un de dogmatique, donc c'est pas voilà, on hybride tout, et puis non, c'est en tout cas, c'est une approche que je veux apporter dans le débat public, dans l'entreprise, dans les institutions publiques, à l'école, dans les maisons de retraite, enfin voilà, un peu partout, parce que je pense que cette approche-là peut faire du bien, surtout aujourd'hui, où on sent que les silos, l'entre-soi, la consanguinité, les identitarismes reviennent. Donc je pense que c'est une idée qui peut apporter quelque chose au monde.
Voilà. C'est un véritable bouffée d'air frais que vous nous apportez en cette rentrée. D'ailleurs, à la dernière page de votre livre, vous dites « Ce sera au centaure et non au pur sang que l'avenir appartiendra ». Voilà, nous devrions tous devenir centaures. Merci infiniment, Gabriel Alpern, d'avoir été notre centaure, notre invitée stimulante pour cette émission de rentrée. Je rappelle que vous avez publié il y a quelques mois un petit livre décapant, Tous centaures, éloge de l'hybridation, paru aux éditions Le Pommier. Notre époque change à grande vitesse et votre regard sur cette complexité, vous l'avez exprimé tout au long de cette interview, est passionnante. Nous a été en tout cas très précieuse. Merci beaucoup, Johanna, d'avoir été encore une fois à mes côtés, ainsi qu'à toute l'équipe technique de Radio Imo, Pierre-Yves et d'autres qui sont en régie. On ne les voit pas, mais c'est aussi grâce à eux que cette émission a pu être réalisée. On se retrouve sous peu pour une nouvelle émission de Complètement à l'Ouest. Nous parlerons de forêt, la forêt française. En attendant, cette émission peut être, vous le savez, réécoutée en balado-diffusion sur le site de Radio Imo et sur tous les principaux players de podcasts, comme on dit. D'ici là, bon vent, cap à l'Ouest, Complètement à l'Ouest.
Il est complètement fou, ce mec!
Alors promets-moi de pas bouger.
Bon, c'est d'accord.
Complètement à l'Ouest, présenté par Philippe Boyer, directeur de l'innovation chez Covivio. Une émission à réécouter et à télécharger gratuitement sur le site radio.imo.